Entre nous, on se dit tout.
Interview.
Entrevue.
Nézida, paysanne et femme libre de la seconde moitié du 19e siècle, est devenue femme libre grâce à l'écriture poétique et maîtrisée de Valérie Patureau. Nézida est un premier roman exquis et local aussi, puisqu'il se déroule entre Comps, Diolfi et Lyon. Vous connaissez peut-être déjà Valérie Patureau, diolfitoise depuis quelques années, passionnée de littérature. Elle fait notamment partie des chroniqueurs littéraires acerbes de l'émission « Sans titre provisoire » que nous enregistrons le plus régulièrement possible à la librairie « Sceaux et gambades » de Diolfi. Mais revenons à Nézida, premier roman sorti la semaine dernière aux éditions Liana Lévy, une plongée sociale, historique et féminine dont nous allons parler tout de suite avec Valérie Patureau qui nous fait l'amabilité d'être avec nous en direct au studio de la radio. Bonjour Valérie, bienvenue.
Bonjour, merci beaucoup de me recevoir.
Nézida était la fille d'une famille paysanne de Comps, une femme différente qui a bel et bien existé, il y a de cela près d'un siècle et demi. Pouvez-vous nous dire comment vous l'avez rencontrée ?
Bien sûr. J'ai rencontré Nézida, et je m'en explique d'ailleurs à la fin du livre, en feuilletant un énorme livre, une généalogie familiale d'une famille qui m'était proche et qui m'est toujours très proche, à Diolfi. Je suis depuis toujours intéressée à l'histoire et l'histoire de ce pays me touche particulièrement. Donc en feuilletant cet énorme livre qui est une compilation en fait de dates, de noms, qui n'est pas très très agréable à lire, hein, ce n'est pas du tout un roman, mais qui est pleine de richesses, j'ai été arrêtée par une photo, une photographie d'une jeune femme sur une planche photographique qu'elle partage avec d'autres personnages. Et sous cette photographie, deux dates, la date de sa naissance et la date de son décès, très rapprochées. Et j'ai regardé cette femme, et je ne me l'explique peut-être pas encore aujourd'hui, mais elle a arrêté mon regard. Et un petit peu comme le ferait un journaliste ou un commissaire de police, j'ai décidé de partir sur ses traces, et c'est ce que j'ai fait.
Immédiatement est arrivé le désir de lui donner une existence. C'était quoi, son regard ?
Oui, c'était son regard et c'était peut-être surtout sa place sur la planche photographique parce qu'elle avait à sa gauche un personnage que l'on disait être son mari ou avoir été son mari, qui lui était très âgé. D'autres personnages en dessous, une autre femme, un enfant et elle très jeune. Donc ça m'interrogeait beaucoup. Je me disais, mais quelle est sa place dans cette famille ? Et je suis allée aux archives, j'ai cherché. Je n'ai rien trouvé, si ce n'est la confirmation de cette date de naissance, de cette date de mariage et date de décès.
Et de son prénom.
Et de son prénom.
Qui accroche lui aussi.
Qui accroche, qui est quand même très original, Nézida. Et je suis partie sur ses traces. Donc j'en ai su un tout petit peu plus sur la date de son mariage, sur la maison de ses parents. Et j'ai passé beaucoup de temps assise dans l'herbe devant la maison de ses parents. Et j'ai essayé d'imaginer l'enfant qu'elle avait pu être, la jeune fille qu'elle avait pu être. Et voilà.
Peu d'éléments, en fait.
Très peu.
Écrire la vie d'une femme ayant déjà existé, est-ce que c'est une pression supplémentaire ? Quelle liberté vous êtes-vous accordée dans cette mission ?
Alors, j'avais quand même beaucoup de liberté, puisqu'il n'y avait rien sur elle. Absolument rien. Donc, je me suis d'abord assurée que je pouvais inventer et écrire sur cette famille, parce que sa famille continue à exister. Donc, je me suis assurée de cela. Et non, j'ai vraiment eu une grande liberté. Je me suis dit, je peux tout faire. Et j'ai imaginé sa vie. J'ai imaginé d'abord son enfance, parce que j'étais dans le village, j'étais sur les chemins qu'elle avait parcourus. Et après, le reste est arrivé. Et j'ai voulu mettre une dimension un peu plus intemporelle et un peu plus universelle dans son parcours.
Sa maison se situe à Lacalade, à Comps. Est-ce qu'elle a beaucoup changé
Elle a peu changé. On peut encore passer devant elle. J'y suis encore allée la semaine dernière. Elle a été aménagée. Maintenant, elle a une piscine. Elle a beaucoup de choses. C'est une résidence secondaire. Mais elle est quand même là. Et puis, il y a une grange qui est écroulée. J'ai imaginé Nézida s'y promener et y travailler surtout, parce qu'elle y a beaucoup travaillé.
Alors Nézida, c'est une femme qui malheureusement ne pourra pas aller au bout de ses rêves,
voilà.
Qui s'est libérée du carcan, d'un certain carcan sociétal de l'époque. Elle disparaît trop jeune. Mmh. Et ce sont ses proches dans l'ouvrage, son mari, ses frères, sa mère, ses amis, qui nous parlent d'elle, qui décrivent sa vie et ses combats les uns après les autres. Ce dispositif d'écriture chorale, je ne sais pas si on peut dire comme ça, enfin, disons à plusieurs voix, à quel moment est-il arrivé et pourquoi ?
Alors, il est arrivé vraiment très naturellement. Lorsque j'ai commencé ce livre, je savais dès le départ, puisque c'est ce qui m'avait intéressé, la date de naissance et la date de décès très proche, sa mort était annoncée dès le début du roman. Puisqu'elle n'était plus là, elle ne pouvait donc plus prendre la parole. Et je ne voyais, pour parler d'elle, que le regard en creux et le personnage en creux qui allait se dessiner dans les paroles des autres. Et je suis aussi persuadée que la mort de quelqu'un redéfinit absolument toutes les cartes. Et que le personnage qui vient de disparaître prend une toute autre dimension au regard de ceux qui restent.
Mmh.
Voilà. Et il se disait... ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit, ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait. Ils se remettent aussi, eux, en question par la mort de ce personnage.
C'est ça qui est très, très voilà. Troublant et très original. Et les hommes, notamment, témoignent assez ouvertement dans le livre de leur surprise lorsqu'ils voient leurs épouses s'émanciper,
oui.
Sortir du carcan classique de la mère qui fait œuvre de charité.
Exactement.
Et, dans sa paroisse protestante, là, en l'occurrence. Et notamment, lorsqu'elle pense à faire des études, comme Nézida et son amie Camille, qui souhaitent devenir infirmière, puis pourquoi pas médecin, un rêve fou pour une femme à l'époque. Ces hommes, ils en parlent sans entrave.
Voilà.
Ils livrent leurs pensées. On arrive à une forme d'introspection.
Tout à fait. Je crois qu'en fait, le déterminisme social qui pèse sur les femmes pèse aussi sur les hommes.
Voilà.
Ils sont dans un rôle défini. Ils sont programmés, entre guillemets, pour cela. Ils ont été élevés comme ça. Donc, le déterminisme pèse aussi sur eux. On a tendance à l'oublier, ça. Et ils sont étonnés eux-mêmes d'être émus et d'être attendris et de se laisser peut-être un peu guider sur des chemins qui n'étaient pas du tout prévus au départ pour
cette
eux.
Masculinité, cette voie de la masculinité,
voilà.
En plus de l'époque, enfin déjà maintenant c'est un peu novateur.
Bien sûr.
En quoi c'était important pour vous qu'on entende ces voix-là ?
Parce que je voulais sortir de... Pour moi, rien n'est tout blanc ou tout noir. Et il n'y avait pas les femmes qui voulaient s'émanciper d'un carcan énorme. Et les hommes qui le refusaient. Je suis persuadée qu'il est aussi très difficile pour les... Il était très difficile, et il l'est peut-être encore, de sortir un peu de son rôle d'homme. Je voulais que ce soit moins... En tout cas, pas caricatural. Et que la mort de Nézida soit une ouverture... Pour tous les personnages qui l'ont côtoyée. Voilà, qu'elle leur permette d'évoluer. Elle aura vécu peu de temps, elle aura eu une fulgurance de vie, vraiment, mais elle aura laissé des traces. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est toutes ces traces qu'elle aura laissées et qui va faire évoluer les personnages, malgré tout.
Alors, son émancipation passe énormément par son rapport à l'école du village.
Bien sûr.
Vous êtes une ancienne
tout
institutrice,
à fait, oui.
Donc c'est quelque chose qui vous touche.
Voilà,
est-ce que,
le pouvoir
est-ce
de l'école, que, voilà. Pour moi, c'est essentiel. Et là, nous sommes à une période de l'histoire où l'école va s'ouvrir. Il y avait des écoles religieuses, il va y avoir l'école laïque qui arrive, qui est très, pour moi, essentielle. Et je voulais que Nézida se libère par l'école, par la culture, par les livres. Parce que je crois que c'est une des voies incontournables.
C'est elle, c'est le moyen, c'est ça qui lui permet de s'émanciper
c'est
réellement.
Ça. D'abord, c'est le premier, c'est ce qui va nourrir ses rêves, hein, ce qui va nourrir ses rêves, qui va lui donner envie d'aller voir un peu au-delà des collines et qui va lui montrer qu'il y a une autre vie ailleurs. Et je crois qu'en plus, ça forme l'esprit critique et qu'elle va, grâce à ça, être capable de s'opposer au déterminisme religieux, social, de son village.
Mmh.
Et ça, je crois que c'est universel et que ça existe encore aujourd'hui. Et l'école est tellement, tellement essentielle. Et puis les rencontres, elle rencontre ce vieil instituteur, elle va l'aider. Je pense que c'est un moyen essentiel pour elle.
Nézida est une fille discrète,
oui.
Tout en retenue, et pourtant extrêmement sûre, même intérieurement, de ses désirs et déterminée. Serait-elle un peu à l'image de celle qui lui a redonné vie à travers ses propres mots ?
Certainement, certainement. Je pense que les gens qui le lisent doivent m'y retrouver un peu, et tant mieux. Et je crois que ça ne peut pas être autrement. Oui, elle est discrète. Ce n'est pas du tout une suffragette. D'abord, il est beaucoup trop tôt dans l'époque pour être une suffragette. Ça n'est même pas concevable. Elle n'a pas le poing levé. Elle ne rejette pas ni son milieu ni son village. Elle est absolument, mais sûre d'elle. Oui, je crois qu'elle est très forte. Elle sait ce qu'elle veut et surtout ce qu'elle ne veut pas.
Vous connaissez bien, donc vous disiez tout à l'heure, la famille du mari de Nézida, Antonin Soubéran, une famille diolfitoise, plus bourgeoise, plus citadine, des manufacturiers protestants. Quelles ont été les recherches bibliographiques que vous avez été amenée à faire ? Est-ce que vous avez travaillé directement avec des membres de la famille sur les souvenirs de la famille Soubéran actuelle ?
Alors, je n'ai pas travaillé, mais j'ai fait part de l'avancement de mon travail. Et à chaque fois, j'avais un petit panel d'oreilles attentives et critiques, beaucoup de la famille Soubéran, je dois le dire, et qui me donnaient un peu leur ressenti. Il n'y avait pas d'archives, il n'y avait pas de souvenirs, c'est déjà trop loin. J'ai cherché même la tombe de Nézida, je ne l'ai jamais trouvée. J'ai trouvé la tombe de sa famille, des descendants, mais pas d'elle. Et j'ai surtout cherché dans les archives locales, dans les livres qui ont été écrits tout à fait localement. Un livre, par exemple, de Madame Pontier m'a beaucoup aidée sur Combes, sur la vie de Combes. Elle avait fait d'énormes recherches sur son village. Et puis, une recherche plus générale sur la vie des paysans à cette époque-là. Je suis partie vraiment du local jusqu'au plus général. Il y avait il n'y a rien sur elle. J'ai appris à la famille Soubéran qu'il y avait eu une Nézida. Ils n'en avaient jamais entendu parler. Après sa mort, et ça je le dis à la fin du livre, Antonin va se remarier et va avoir une descendance. Et les descendants d'Antonin vivent encore à Diolfi. Je les connais très bien, je peux les côtoyer sur le marché ou dans la rue du Bourg. Ils ne savaient pas que leur arrière-grand-père avait déjà eu
une première femme.
C'est un peu normal, je pense que déjà... De courte durée, et puis je crois qu'à cette époque-là, on parlait très peu en famille, on parlait très peu. Ça ne se disait pas.
Mais dans le livre, ils parlent beaucoup.
Voilà.
Ou ils écrivent, Oui,
ils parlent, ils écrivent. Il y a des écrits de la belle-mère, il y a différentes approches.
Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans cette exploration que vous semblez avoir faite de la vie paysanne du 19e siècle ?
Alors, ce qui m'a beaucoup surpris, mais ça a été peut-être ma faculté à imaginer la vie telle qu'elle pouvait l'être. Je donne un tout petit exemple. À un moment dans le livre, je parle de la vente de violettes ou la vente de fleurs sur le marché. Il a fallu que je sois dans le chemin derrière la calade, un tout début de printemps, que je m'assoie et que je vois ces quelques violettes et que j'en arrache à main nue. J'avais rien sur moi, j'ai arraché à main nue un petit plant de violettes et c'est tout ça. Et j'ai essayé d'imaginer ce qu'avaient pu vivre ces petites filles lorsque j'ai trouvé dans les archives de la ville de Combes les enfants qui étaient nés la même année que Nézida. Il y avait par exemple une petite Joséphine. Je me suis dit...
Son amie.
Voilà. Je me suis dit donc forcément, dans ce village où il y a quand même peu d'habitants, Joséphine a connu Nézida. C'est pas possible autrement. Et donc, je l'ai imaginé son amie. Voilà. C'est un peu comme ça que j'ai retracé la vie du village. Et puis la vie aussi de Diolfi, qui à cette époque-là était une petite ville industrielle. C'est incroyable, je crois que c'était la deuxième ville industrielle de la Drôme. Ce n'est pas rien, il y avait des grosses manufactures.
4500 habitants.
Ah, voilà, c'est énorme, avec des gens qui travaillaient tous au rythme des cloches le matin pour l'ouverture des usines. Donc j'ai imaginé qu'entre Diolfi et Combes, il y a quelques kilomètres, et qui à cette époque-là représentait du temps pour les parcourir, mais il y avait aussi cette différence, la campagne vraiment là-haut.
On la sent bien,
deux mondes, mais l'un avait besoin de l'autre.
Et est-ce que ça a changé votre regard sur le monde d'aujourd'hui, cette exploration d'antan ?
Bien sûr, parce que Dieu le fit aujourd'hui, moi, est un village que j'aime et dans lequel je vis depuis 10 ans, mais qui n'a absolument plus rien à voir avec une petite ville industrielle. Et lorsque je vois des commerces qui ferment les uns après les autres, ou des gens qui ont des difficultés à trouver du travail, des jeunes qui ont des difficultés à trouver du travail ici, je me dis, oui, que s'est-il passé ?
Et que s'est-il passé ?
Voilà.
Alors, c'est un premier roman. L'édition d'un premier roman, c'est quand même une grande reconnaissance du milieu littéraire. En plus, aux éditions Liana Lévy, oui, que vous appréciez particulièrement. C'est un peu une consécration. Comment ça s'est passé pour vous ? Est-ce que vous avez suivi les voies les plus simples ? Est-ce que vous aviez des liens déjà avec ce milieu ?
Alors, je n'avais absolument aucun lien avec le milieu de l'édition. Je n'en ai jamais eu. Comme vous l'avez dit, j'étais institutrice pendant toute ma vie. Et j'ai vraiment procédé de façon extrêmement artisanale. D'abord, pendant l'écriture, je n'ai jamais eu vraiment comme projet de publier. Je veux dire, je n'ai jamais pensé à ça vraiment. Et c'est en lisant aux amis autour de moi, à la famille Soubéran, comme je viens de le dire, j'ai été encouragée. J'en ai parlé aussi à la libraire Anne-Laure de Sauzet-Gambade, que j'apprécie beaucoup, qui m'a encouragée. Et tout d'un coup, je me suis dit, pourquoi pas ? Mais comment faire ? Donc j'ai fait de la façon la plus simple possible. J'ai fait reproduire mes manuscrits à Montélimar. J'avais une grosse pile de manuscrits. Je suis allée à la poste de Dieu le fit. La postière absolument adorable m'a aidée à mettre ça dans des grandes enveloppes Kraft, mettre mes timbres. Et j'ai envoyé aux éditions que j'appréciais. Voilà, Actes Sud, Liana Lévy, puisque moi je suis une grande lectrice, et chez Stock. Et j'ai envoyé à des éditions plus locales aussi. Et puis voilà, j'ai posté en me disant advienne que pourra. Je ne voulais pas non plus me créer une frustration, mais c'est vrai que j'ai posté le 20 juin de l'année dernière, 2019. Et le 28 juin, j'ai reçu un coup de téléphone. J'étais, comme tout le monde, dans ma cuisine, et j'ai reçu un coup de téléphone. Ici, Liana Lévy. Et là, je me suis dit... Elle ne m'appelle pas pour rien. Et elle m'a tout de suite dit, vous tenez quelque chose, et nous avons beaucoup apprécié.
Voilà. Et après, comment ça se passe ? Vous travaillez ensemble
Alors après, donc là, on était au mois de juin, et elle m'a dit, est-ce que vous pouvez venir à Paris ? Dans ma tête, je me suis dit, mais bien sûr, je peux venir à Paris. Mais en même temps, j'avais tous mes petits-enfants qui arrivaient le lendemain pour passer les vacances. Donc, je me suis vue refuser un départ immédiat. Je ne pouvais vraiment pas faire autrement. On a repoussé de quelques semaines. Et puis voilà, après, c'est parti. Tout cela s'est fait beaucoup, beaucoup aussi par téléphone, parce qu'il y a eu d'énormes grèves, des gilets jaunes, etc. Donc, il y a eu beaucoup de grèves de transport, mais après, c'était parti. Oui.
Et une fois qu'on a l'objet entre ses mains et qu'il va toucher tous les lecteurs et toutes les lectrices et susciter certainement diverses interprétations quant aux
Bien
intentions,
sûr.
Notamment par rapport à la féminité, au féminisme même.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, on a vraiment l'impression, c'est un peu bateau de dire qu'il ne nous appartient plus. Oui, je vois mon nom écrit, je sais que je l'ai écrit. J'ai essayé de le relire. C'est très curieux parce qu'il faut arrêter de le relire parce qu'on voit tous les petits détails qu'on n'aurait peut-être pas dû faire. On n'en finirait pas. Effectivement, après, c'est l'appropriation s'en font les lecteurs. Et ça, c'est passionnant parce qu'on se dit quand même qu'une même phrase et un même personnage n'a pas du tout la même résonance. Alors oui, on y voit un étendard féministe. Moi, je ne l'ai pas écrit comme cela, mais pourquoi pas. On voit des tas d'autres interprétations et c'est quand même assez passionnant. Alors, ce qui me touche beaucoup, c'est le panel de gens qui ont l'air touchés par cette histoire. Et ça me fait très plaisir. Des gens qui n'ont pas vraiment accès d'habitude à la littérature, même rentrer dans une librairie, ce n'est pas si facile pour eux. Et là, ils l'ont fait par amitié pour moi. Et ça me touche beaucoup. Et que ça puisse intéresser ces gens-là et leur donner envie de lire d'autres livres, ce serait vraiment génial. Et en même temps, des critiques littéraires quand même dans les journaux, voilà, tels que Le Monde ou Le Nouvel Observateur. Je suis très très flattée, je ne m'attendais pas du tout à ça.
Mais un vrai succès d'estime
voilà,
magnifique.
Ça, je trouve ça formidable, que ça puisse toucher les gens.
Valérie Paturo, merci d'être venue nous parler.
C'est vraiment moi qui vous remercie de, vous être intéressée à mon livre.
On est contents parce, qu'on a plaisir à se voir à la librairie régulièrement pour nos émissions. Et voilà, passionnée de littérature, premier roman.
Merci beaucoup.
Merci. Votre superbe premier roman, Nézida, qui, je le rappelle, est sorti aux éditions Liana Lévy. Coup de cœur de nombreuses librairies, mais aussi, vous l'avez dit, du Monde des Livres, Figaro Magazine. Et ça va continuer longtemps.
Est-ce que je peux quand même juste ajouter une petite chose ? On parlait des éditions. C'est une petite maison d'édition indépendante. Et je trouve extraordinaire que cela puisse encore exister et qu'ils prennent des risques avec des primo-romanciers. Ça peut ne pas marcher du tout. Mmh. Ils prennent ce risque et je trouve qu'il faut soutenir ces éditeurs indépendants comme les librairies indépendantes. Voilà.
C'est bien dit, c'est bien entendu et c'est vrai que c'est remarquable. Il sera possible de vous rencontrer au Café littéraire de Montélimar le premier week-end d'octobre. Est-ce qu'il reste ou est-ce qu'il y aura encore d'autres occasions de vous rencontrer par chez nous ?
Alors, je l'espère. Il y a beaucoup, bien sûr, ont été annulés ou repoussés à cause de cette crise. Pour l'instant, les rencontres sont un petit peu au repos.
C'est ça. On vous tiendra au courant. Dans tous les cas, Valérie, on se retrouve dès que possible au micro de son titre provisoire, dès que nous pourrons reprendre les enregistrements. Belle vie à Nézida, femme libre, et à bientôt.
Au revoir.
Radiola.media.